Chapitre 22, la parabole du semeur. Jésus avait passé la nuit entière en prière. De bon matin, il descendit vers la plage pour chercher ses disciples qui pêchaient près de la côte. Il ne pouvait être longtemps sans être assailli par le peuple. Aussitôt que l'on sut que Christ était près du lac, la multitude se pressa autour de lui. Elle s'accrut tellement qu'il était pressé de tous côtés. Comme il se tenait debout pour les enseigner, la foule devint si nombreuse qu'il se plaça dans une barque et s'éloigna un peu de la côte, pour que le peuple pût mieux le voir et l'entendre, pendant qu'il continuait ses discours. Il adoptait fréquemment ce plan pour échapper à ses auditeurs empressés qui se jetaient les uns sur les autres, pour arriver auprès de lui. De cette manière, il pouvait parler des choses qu'il désirait leur enseigner, sans être interrompu. Le Sauveur, assis sur un grossier bateau de pêche, annonçait les paroles de vie au peuple qui l'écoutait sur la plage. Il était patient avec ceux qui étaient tentés, et tendre et bon pour les affliger et les décourager. Ses paroles trouvaient une réponse dans bien des cœurs, et la lumière de ses divines instructions brillait dans beaucoup d'esprits obscurcis. Quelle scène les anges n'avaient-ils pas à contempler? Leur glorieux chef assis dans une barque de pêcheurs, balancé ça et là par les eaux mouvantes, et prêchant le salut à la foule qui l'écoutait en se pressant au bord de l'eau. Lui qui était honoré au ciel, enseigne sa sublime doctrine de délivrance en plein air au commun peuple. Pourtant il ne pouvait avoir une plus magnifique scène pour ses travaux. Le lac, les montagnes, les champs étendus, le soleil inondant la terre de ses rayons, tout fournissait des sujets par lesquels ses leçons pouvaient être imprimées dans l'esprit des hommes. En pleine vue étaient les semeurs et les moissonneurs, côte à côte, les uns jetant la semence, les autres moissonnant les premiers grains. Les vallées fertiles et les pentes des collines étaient toutes beauté. Les rochers stériles se dressaient sur le rivage, les oiseaux faisaient retentir l'air de leur gazouillement et les oiseaux aquatiques effleuraient la surface des eaux. Jésus saisit cette occasion pour tirer de la nature des leçons qui fissent une impression profonde sur l'intelligence de ses auditeurs. Il emploie les scènes qui l'entourent, pour illustrer sa doctrine, de sorte qu'à l'avenir lorsque ces scènes se représenteraient à leurs yeux, leurs pensées leur rappelassent les leçons de vérité que Jésus en avait tirées. Assis là, et regardant la scène animée qui était devant lui, Jésus prononça la parabole qui nous a été transmise à travers les âges, aussi pure et belle dans sa simplicité aujourd'hui, que lorsqu'elle fut donnée le matin de ce jour au bord de la mer de Galilée, il y a plus de 1800 ans. Un semeur s'en alla pour semer. Et il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent, et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur des endroits pierreux, où elle avait peu de terre. Et elle leva d'abord, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée. Et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines crûrent, et l'étouffèrent, et elle ne rapporta point de fruits. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et rendit du fruit, qui monta et crut. En sorte qu'un grain en rapporta 30, un autre 60, et un autre 100. Que celui qui a des oreilles pour ouïr, entende. Cette illustration frappante de la propagation de l'évangile du Fils de Dieu attira la plus grande attention du peuple. Le prédicateur attirait à lui l'esprit de ses auditeurs. Leurs âmes étaient émues, et plusieurs agitées par de nouveaux désirs. Ils étaient charmés par une doctrine si noble dans ses principes et pourtant si facile à comprendre. Les connaissances spirituelles élevées que Jésus enseignait semblaient alors très désirables. Mais comme ces impressions reçues devaient vite passer chez quelques-uns lorsqu'ils seraient de nouveau mêlés au monde. Le péché, qui avait paru si haïssable à la sainte lumière de la présence du Maître, s'attacherait de nouveau à leur cœur égaré. Un entourage défavorable, les soucis mondains et les tentations les feraient retomber bientôt dans l'indifférence. Mais d'autres, qui écoutaient, devait commencer dès ce moment une vie plus sainte et pratiquer journellement les principes des enseignements de Christ. Le sujet qui avait fait la substance de son discours, illustré par les scènes qui étaient devant eux, ne devait jamais s'effacer de leur esprit. Les champs variés, quelques-uns ne produisant que des chardons et des herbes nuisibles, les chênes de rochers couverts d'une mince couche de terre, les semeurs avec leurs semences, tout cela se déroulant sous leurs yeux, imprimait ces paroles dans leurs esprits comme aucune autre chose n'aurait pu le faire. L'état de choses existant porta Jésus à donner la parabole du semeur. Le peuple qui suivait Jésus avait été déçu de ce qu'il n'établissait pas un nouveau royaume. Depuis longtemps ils avaient attendu un Messie qui les élèverait et les glorifierait comme nation, et comme leur espérance ne se réalisait pas, ils refusaient de le recevoir comme leur Rédempteur. Même les disciples choisis s'impatientaient de ce qu'ils ne s'emparaient pas de l'autorité temporelle, et ses parents étaient désappointés et le rejetaient. Il lui avait parlé en ces termes, « Pars d'ici, et t'en vas en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne ne fait rien en cachette, quand il veut agir franchement. Puisque tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Ceux qui le suivaient étaient mortifiés de ce que les savants et les riches n'étaient pas les plus désireux de le recevoir comme leur sauveur. Ils sentaient le déshonneur qui s'attachait à leur maître parce que c'étaient les pauvres, les affligés et la plus humble classe généralement, qui devenaient ses disciples. Pourquoi, se demandaient-ils, les scribes et les pharisiens, les docteurs des écoles des prophètes ne reconnaissent-ils pas qu'il est le Messie depuis longtemps attendu? C'était pour combattre ce doute et ce mécontentement que Jésus prononça cette parabole. Quand la foule se fut éloignée, les douze avec les autres croyants se réunirent autour de lui, et lui demandèrent de la leur expliquer. Et il leur dit : Il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont de dehors, tout se traite par des paraboles, de sorte qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent, et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent, et que leur péché ne leur soit pardonné. Et il leur dit : N'entendez-vous pas cette similitude? Et comment entendrez-vous les autres? Par ces paroles, il expliquait que ces illustrations avaient pour but de faire réfléchir ses auditeurs. S'ils désiraient une explication plus complète de ces paroles, ils pouvaient la lui demander, comme ses disciples l'avaient fait, et la recevoir. Les pharisiens comprirent la parabole, mais ils affectèrent de ne pas apercevoir sa signification. Ils fermèrent leurs yeux afin de ne pas voir, et leurs oreilles afin de ne point entendre, de sorte que leur cœur ne pouvait être atteint. Ils auraient à souffrir la rétribution de leur ignorance volontaire et de l'aveuglement qu'ils s'imposaient eux-mêmes. Une des raisons pour lesquelles il enseignait tant de choses en parabole, c'est que les espions des Juifs veillaient constamment afin de trouver lieu de porter plainte contre lui. Jésus voulait démasquer leur hypocrisie et leurs mauvaises actions sans s'exposer lui-même au danger d'être arrêté et emprisonné par eux, et d'être enlevé ainsi à l'œuvre qu'il était venu accomplir parmi le peuple. Il pouvait dire des paroles sévères en parabole, révéler l'iniquité qu'il était nécessaire de démasquer, sans craindre aucunement leur loi. Il pouvait en faire l'application car il ne pouvait manquer d'en reconnaître la signification, et pourtant ils étaient impuissants à le condamner pour avoir employé une simple parabole dans son discours. Les paroles de Jésus renferment un reproche pour ses disciples, à cause de leur dureté à comprendre la signification de ces paroles, car dans la parabole du semeur, il avait illustré la doctrine qu'il était venu enseigner au monde. S'il ne pouvait saisir des choses si faciles à comprendre, comment pourrait-il sonder les vérités plus grandes qu'il leur déclarait en parabole? Il leur dit aussi qu'il révélerait de plus grands mystères concernant le royaume de Dieu à ceux qui le suivaient et lui obéissaient qu'à ceux qui se tenaient hors de son association. Ils devaient ouvrir leurs esprits à l'instruction et être prêts à croire. Ceux qui avaient habitué leur cœur à l'amour de la pompe et des cérémonies ne souhaitaient pas de comprendre ses enseignements, et ne désiraient pas l'œuvre de la grâce de Dieu dans leur cœur. Ces personnes aimaient à demeurer dans l'ignorance de leur choix. Ceux qui étaient unis au ciel et recevaient Christ, source de la lumière et de la vérité, comprenaient ces paroles et devaient acquérir une connaissance pratique concernant le royaume de Dieu. Mais ceux qui, pour une raison quelconque, négligeaient les occasions qui leur étaient offertes de connaître la vérité, et n'usaient pas droitement de leur intelligence, mais refusaient d'être convaincus par ce que leurs yeux voyaient et ce que leurs oreilles entendaient, devaient être laissés dans les ténèbres, Voyant, ils n'apercevaient point, entendant, ils ne comprenaient point. Les vérités de Dieu demandaient trop de renoncement et de pureté personnelle pour attirer leur esprit charnel, et ils fermaient leur cœur par bigoterie et incrédulité. Jésus bénissait ses disciples parce qu'ils voyaient et entendaient avec des yeux et des oreilles de croyants. Il leur dit : Plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Jésus expliqua alors à ses disciples les différentes classes de personnes représentées dans la parabole du semeur. Christ, le semeur, répand la semence. Il y a les mondains dont les cœurs sont semblables au chemin durci, insensibles aux enseignements de la sagesse divine. Ils n'aiment pas les exigences que le service de Dieu comprend, et ils suivent les penchants de leur nature. Beaucoup sont convaincus quand ils entendent les importantes leçons de Christ. Ils croient ses paroles et prennent la résolution de vivre saintement. Mais quand Satan vient avec ses mauvaises suggestions, ils sont vaincus avant que la bonne semence ait complètement repris vie. Si leur cœur avait été profondément brisé par la repentance, ils auraient vu combien était mauvais leur amour égoïste du monde, leur orgueil, leur avarice, et ils auraient abandonné ses défauts. Les semences de vérité auraient projeté de profondes racines dans leur cœur, ce terrain préparé pour elles, elles auraient cru et porté du fruit. Mais les mauvaises habitudes avaient si longtemps dominé leur vie, que leur bonne résolution s'était évanouie devant la voix du tentateur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume de Dieu, et qu'il ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il y en a qui reçoivent la précieuse vérité avec joie. Ils sont excessivement zélés, et ils expriment leur étonnement de ce que tous ne puissent comprendre les choses qui leur sont si claires. Ils pressent les autres d'embrasser une doctrine qu'ils trouvent si convaincante. Ils condamnent immédiatement ceux qui hésitent et ceux qui pèsent soigneusement l'épreuve de la vérité, et qui la considèrent sous toutes ses faces. Ils les accusent de froideur et d'incrédulité. Mais au moment de l'épreuve, ces personnes enthousiastes chancellent et tombent. Elles n'avaient pas accepté la croix comme appartenant à leur vie chrétienne. Leur ardeur a disparu. Ils refusent de se charger de cette croix, et s'en détournent finalement. Si la vie s'écoule doucement pour ces gens-là, si leur chemin n'est jamais obstrué, si tout s'harmonise avec leurs inclinations, ils paraissent être des chrétiens sincères. Mais ils tombent sous l'épreuve ardente de la tentation, ils ne peuvent endurer l'opprobre pour la cause de la vérité. La bonne semence qui avait formé en eux une plante si florissante flétrit, et meurt parce qu'elle n'a point de racines pour la soutenir dans le temps de la sécheresse. La cause même qui aurait dû faire pénétrer ses racines plus profondément pour donner à la plante un accroissement plus vigoureux, brûle et tue toute la plante. Il en est exactement ainsi du soleil d'été. Il fortifie et mûrit les plantes robustes, mais brûle et détruit celles qui, quoique fraîches et vertes, n'ont point de profondes racines, parce que leurs tendres fibres ne peuvent percer le terrain dur et pierreux. Ces personnes pourraient cultiver et enrichir le sol de leur cœur, si elles le voulaient, de sorte que la vérité s'y enracinerait plus profondément. Mais cela demande trop de patience et de renoncement. Il leur coûte trop d'efforts d'opérer un changement radical dans leur vie. Elles sont facilement offensées par la réprimande et prêtes à dire avec les disciples qui quittèrent Jésus : Cette parole est dure, qui peut l'entendre ? Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et qui la reçoit d'abord avec joie, mais il n'a point de racine en lui-même. C'est pourquoi il n'est que pour un temps, et lorsque l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Jésus compare la parole qui leur est annoncée à la semence qui tombe dans des endroits négligés, et dont les mauvaises herbes nuisent aux bonnes plantes qui s'élèvent au milieu d'elles. Celles-ci croissent maladives, et périssent. Beaucoup de personnes répondent à la voix de la vérité, mais ne la reçoivent pas convenablement et ne l'apprécient pas. Elles lui donnent une place dans le sol de leur cœur naturel sans préparer le terrain, en ôtant les herbes empoisonnées qui y fleurissent, et sans veiller à toute heure afin de les extirper si elles apparaissent de nouveau. Les soucis de cette vie, La fascination des richesses, le désir des choses défendues, étouffent l'amour de la justice avant que la bonne semence puisse porter du fruit. L'orgueil, la colère, l'amour-propre, l'amour du monde, l'envie et la malice ne peuvent aller de pair avec la vérité de Dieu. Comme il est nécessaire de cultiver à fond le sol qui a été infecté de mauvaises plantes, il est nécessaire aussi que le chrétien soit diligent à extirper les fautes qui menacent de le perdre éternellement. Un effort patient, sincère, au nom et par la force de Jésus, peut seul déraciner ces pernicieuses tendances du cœur naturel. Mais ceux qui ont laissé surmonter leur foi par les influences sataniques, tombent dans un état pire que celui où ils étaient avant d'entendre les paroles de vie. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Peu de cœurs sont semblables à la bonne terre, bien cultivés, recevant les semences de la vérité, et portant des fruits abondants à la gloire de Dieu. Cependant Jésus trouve quelques chrétiens sincères et riches en bonnes œuvres. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, et qui la comprend, et qui porte du fruit. En sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60, et un autre 30. Ainsi Jésus représente les caractères divers de ceux à qui il s'adressait dans une parabole courte mais vaste dans sa signification. Ceux qui étaient animés de l'esprit du monde, ceux qui étaient disposés au mal, les endurcis, sont tous présentés à l'esprit de ses auditeurs. Il répondit ainsi à la question que nous entendons de nos jours, pourquoi l'œuvre de Christ produisit-elle de si maigres résultats pendant son ministère personnel sur la terre? Des miracles de bonté et de miséricorde marquèrent sa vie. Mais pendant qu'il guérissait les affligés et chassait les démons qui persécutaient les hommes, il laissait à chacun le soin de corriger les défauts de son caractère. Il leur apprenait comment ils devaient unir leurs efforts humains avec sa puissance divine, et triompher par sa force des péchés qui les obsédaient. Cette expérience était nécessaire afin de donner de la puissance morale au caractère chrétien, et le rendre propre pour le ciel. Jésus n'employait aucun agent miraculeux pour obliger les hommes à croire en lui. Ils avaient à l'accepter ou à le rejeter, suivant leur propre volonté. Aucun pouvoir direct ne devait les forcer à l'obéissance et détruire l'action libre que Dieu a donnée à l'homme. La parabole du semeur montre bien les tendances du cœur humain et les différentes classes de personnes avec lesquelles Christ avait affaire, et explique également les raisons pour lesquelles son ministère n'eut pas de succès dans ses effets immédiats. Les paraboles de Jésus avaient pour but d'exciter un esprit de recherche qui aurait pour résultat une exposition plus claire de la vérité. Tandis qu'il instruisait ainsi ses disciples sur la signification de ses paroles, la foule l'entourait de nouveau pour écouter, et plusieurs de ceux qui l'entendaient gravaient ses enseignements dans leur esprit, et les y conservaient avec délice. Les discours de Jésus ne s'adressaient point seulement à une classe d'esprit inférieur. Mais le Sauveur était entouré également de personnes intelligentes et cultivées, habituées à une critique sévère. On y distinguait des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, des gouverneurs, et des représentants de toute nation. Et pourtant, il ne s'en trouvait point, dans toute cette vaste assemblée, pour contredire ses paroles.